J'ai vu des magiciens sur le centre de tri où j'ai appris mon métier dans l'est de la France. Les ouvriers, les exploitants qui étaient là sont toujours pour moi aujourd'hui des magiciens. Et je me suis dit, avec un regard d'enfant, comment cela est-il possible? Pourquoi n'avons-nous pas cette possibilité sur le continent africain?
Edem d'Almeida sur Radio ERA Environnement.
Bonjour, bonjour Edem de Almeida. Vous êtes PDG fondateur d'Africa Global Recycling depuis 8 ans. 8 ans après la création de cette structure, quel bilan faites-vous de vos actions au Togo?
Bonjour aux auditeurs. Oui, alors le bilan, il est à la fois satisfaisant et je dirais plein de promesses dans la mesure où nous avons démarré de zéro, mais en tout point, sur le point du business proprement dit, sur le point de la culture, du changement de culture, de l'éducation, de la mobilisation des entreprises, des gouvernants ou même des différents acteurs à la problématique de la gestion des déchets. C'est de la création d'emplois, c'est de l'éducation, c'est plus de 3000 tonnes de déchets valorisés chaque année. Voilà à peu près le bilan qu'on peut en tirer, beaucoup de satisfaction personnelle également pour l'impact que nous générons avec nos collaborateurs.
Vous avez vécu en France, vous avez travaillé dans le domaine de la gestion des déchets en France, vous êtes parti au Togo pour mettre en place votre entreprise. Comment la population togolaise a-t-elle accueilli votre initiative?
Bon, je ne sais pas si... c'est difficile de le dire, est-ce que la population togolaise a accueilli ou pas. J'ai eu des interlocuteurs qui ont été, pour certains, enthousiastes, d'autres... dubitatif, d'autres n'y croyaient pas du tout. Mais bon, je dirais que c'est le propre de toute aventure et de toute aventure entrepreneuriale. On est passé par plusieurs phases. D'autres n'ont pas pensé qu'on pouvait entreprendre dans le secteur du déchet ou même qu'on pouvait avoir un statut de chef d'entreprise en étant dans le déchet. Et d'autres ont été encore une fois très enthousiastes, percevant la dimension économique, la dimension forte de transformation que pose le déchet.
Quand vous êtes venu au Togo, y a-t-il eu une approche au niveau des populations dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains? Quel a été réellement le défi au départ?
Radio ERA Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement.
Alors nous avons d'abord travailler en milieu urbain. Notre point de départ pour notre business était essentiellement consacré, enfin notre cible était essentiellement entreprise et industrie. Il y a eu des difficultés parce que un cadre légal n'existant pas, un cadre contraignant n'existant pas sur la gestion des déchets, et nous devions apporter un service qui représente un coût qui n'est pas toujours forcément rémunérateur, à des entreprises qui avaient le besoin, mais qui n'avaient pas, qui avaient le choix de faire et de faire autrement, c'est-à-dire de continuer à faire comme avant. Donc, c'était un vrai défi de pouvoir pousser ces lignes. Ensuite, les défis restent encore au niveau, je dirais, des pouvoirs publics ou des gouvernants pour aider vraiment à faire... avancer nos projets et notre combat de faire bouger les lignes. En milieu rural ou les milieux, je dirais plutôt les milieux les plus vulnérables, c'est plus perceptible dans la mesure où les gens sont, dès lors que le déchet représente une valeur économique, peut leur permettre de manger ou d'acheter un pain supplémentaire, adhèrent plus facilement. Dans la mesure où aussi, il faut de l'éducation, il faut un accompagnement à tout ça. Et puis un troisième défi ou un dernier défi, c'est par rapport à la structuration du secteur informel sur la gestion des déchets, qui en soi est désorganisé, mais en même temps, enfin désorganisé de ce que nous pouvons en percevoir, qui est perçu comme une économie de pauvres et qui pourtant est très structurée, dans le choix des filières s'insérer dans le commerce même du recyclage. Il a fallu s'adapter à tout ce monde-là, trouver les moyens d'interagir différemment. Et donc, les défis ont été de trouver clairement les bons moyens d'interagir, de créer des interactions avec chacun d'eux.
Je vois. Pour rebondir sur la question liée justement à l'accès à l'emploi, vous parlez de l'informel, mais en même temps, la question de l'informel est une problématique qui existe en Afrique de manière assez récurrente. Comment aujourd'hui vous vous positionnez dans la transformation de l'informel en du formel? Comment aujourd'hui la question de la gestion de déchets s'intègre dans la formalisation de l'emploi?
Alors, j'ai d'abord été un peu comme, je dirais, un peu comme tout le monde, adhérent à ce discours qui consiste à dire qu'il y a un secteur informel qu'il faut formaliser. Mon expérience m'a fait aussi changer d'avis aujourd'hui, tout simplement parce que ce sont nos propres États qui ont contribué à créer ce secteur informel, qui n'est autre que un écosystème de débrouillard. C'est bien parce que les États ont été à un moment donné incapables de leur venir en aide et de mettre en place une économie de vie pour ces populations qui sont devenues des débrouillards et donc également des acteurs informels. C'est aussi par la peur et le manque de confiance d'ailleurs dans le système de gouvernance de nos États pour ne pas payer d'impôts, justement parce que les États étaient incapables de créer les conditions pour eux de vivre, que beaucoup ont préféré, face à un certain nombre d'insuffisances, de rester dans le commerce informel. Et d'ailleurs, nous avons toujours, même au niveau de l'économie formelle, une part d'activité informelle de nos entreprises. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, ma perception du secteur informel a totalement changé. C'est simplement une composante pour moi aujourd'hui, une composante de notre économie avec laquelle il faut composer. On ne va pas combattre, on ne va pas la combattre parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes, parce que l'histoire n'est pas la même. On ne va pas obligé à changer cette économie qui pèse lourd jusqu'à 80% de nos économies en Afrique, mais il faut trouver le moyen de collaborer avec ces acteurs qui ont d'abord besoin de confiance. C'est d'abord ça, confiance, et de trouver encore une fois les moyens de savoir parler avec eux. Et donc nous avons développé de nouvelles collaborations. Nous avons d'ailleurs un département commercial qui n'est consacré qu'au secteur informel, qu'aux acteurs du secteur informel, avec qui nous travaillons, avec qui nous avons des liens commerciaux. Et il faut trouver le moyen de pouvoir traduire ça aussi sur un plan légal pour ne pas être aussi en défaut avec nos engagements fiscaux.
Et concrètement, comment vous différenciez les emplois? Dites que vous faites quand même 3000 tonnes de déchets par an, donc une création d'emplois. Mais alors, comment vous arrivez à faire la différence entre ces emplois que vous créez et les emplois qui sont justement dans le quotidien?
Radio Era Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement.
Alors, nos emplois chez nous sont des emplois formels. Par contre, nous avons des emplois indirects qui sont créés parce que nous générons de la ressource et faisons en sorte que les acteurs vivent de plus en plus du déchet. Ce sont ces jeunes femmes et hommes, parfois beaucoup plus âgés d'ailleurs, qui vivent sur cette décharge ou ailleurs, récupèrent ou s'organisent en groupement, récupèrent des déchets plastiques, du papier, du carton, des boîtes de conserve, etc., et trouvent le moyen de les valoriser. Alors, en les constituant comme, ou en les considérant comme des fournisseurs à part entière de notre entreprise, nous leur apportons le moyen, d'une part, de diversifier leurs flux, puisque nous-mêmes, étant spécialisés sur un fonctionnement multifilière de la récupération des déchets, nous leur apportons le moyen de diversifier leurs flux, que ce soit du papier, encore une fois, du carton, différents types de plastique, des métaux, du verre, etc. Mais en même temps, nous leur apportons, nous mettons en place des moyens qui leur permettent de faire grandir leur unité ou, je dirais, leur groupement. Donc, ainsi, certains passent à 2, certains passent de 2 à 4, à 5, à 10, à 15. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons un réseau à peu près de collecteurs informels de l'ordre de 150 personnes.
Concrètement, combien d'emplois avez-vous créé depuis la création de votre entreprise ?
Africa Global Recycling, aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'emplois. C'était 120 emplois juste avant la crise Covid. Donc, nous en avons beaucoup souffert. 150 emplois indirect sur le secteur informel. Aujourd'hui, viennent s'ajouter sur la partie éducation au tri sélectif, donc en milieu scolaire, une dizaine d'emplois également sur le Togo et la Côte d'Ivoire. Et puis, un nouvel écosystème de jeunes entrepreneurs que nous essayons d'accompagner à travers un projet dénommé EcoBox, un projet pilote qui vient de créer 3 emplois, qui eux-mêmes sont en train de créer 3 nouveaux emplois. EcoBox, c'est une innovation que nous avons lancée en juillet 2021, qui consiste à mettre en place un point de récupération des déchets et d'en faire un espace multiservice, que ce soit sur le principe de la digitalisation de la monnaie, que ce soit la possibilité de payer votre facture d'électricité, d'assurance, etc., grâce à du déchet que vous apportez, c'est-à-dire que nous faisons désormais du déchet dans cette borne multiservice des moyens de transaction. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. L'innovation s'arrête au fait que la box multiservice est un moyen de développement local qui fixe le jeune dans son territoire. C'est au service des communes. Nous allons accompagner pendant 3 ans un jeune, dans le cadre de ce programme, à devenir un vrai chef d'entreprise. C'est son entreprise que nous lui créons grâce à nos partenaires que nous mettons à sa disposition. Et donc, il est accompagné grâce à un fonds d'amorçage, il est accompagné grâce à un prêt à taux zéro, grâce à la mise en place, à la fourniture d'équipements, au coaching, aux actions promotionnelles, publicités et autres dans les médias locaux. Il est accompagné à développer son entreprise, à créer lui-même son emploi. Au bout de 3 ans, il devient pleinement propriétaire de cette borne multiservice dans laquelle il va développer d'autres activités également.
Eden d'Almeida sur
Radio Era Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement.
Et qui finance vos activités? Vous avez des soutiens financiers?
Alors, la difficulté de notre secteur d'activité, c'est que nous ne sommes jamais assez sexy pour les banques ou les grands financiers, malgré les leçons qu'ils nous donnent tous dans les grandes conférences ou ailleurs. Donc, par là, nous devons nous-mêmes créer non seulement nos propres écosystèmes, mais trouver le moyen de les drainer. Trouver le moyen de les drainer, c'est de les doter de modèles économiques et d'amener aussi cette recherche de financement. Donc aujourd'hui, nous allons chercher des acteurs privés. C'est parfois nos clients, c'est parfois nos fournisseurs, c'est parfois simplement des mécènes qui, dans le cadre de nos projets qui portent l'innovation sociale, acceptent de nous accompagner, de sponsoriser. Je peux citer le cas, si vous le permettez, du leader de la téléphonie mobile aujourd'hui au Togo. Je veux parler de Togocom, qui, grâce à lui, le programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat et au développement local EcoBox a vu le jour. Voilà un exemple concret de partenariat que nous sommes à développer face aux défauts de l'engagement des partenaires financiers et parfois aussi du pouvoir public.
Nous sommes à quelques jours de la COP 26. Qu'est-ce que vous attendez de ce type de conférence? Vous avez évoqué il y a quelques instants les limites, mais la COP 26, pour vous, la conférence sur le climat, n'est-ce pas une solution pour votre entreprise?
Bon, j'ai nourri beaucoup d'espoir à la COP 21 à Paris. Je n'ai pas l'impression, pour ma part, et je peux me tromper, qu'il y a beaucoup de choses qui aient changé de la COP 21 à la COP 26. l'impression que ça devient, malheureusement, pour certains, une succession d'événements et de chiffres où est le moyen de venir vendre ou de faire des effets d'annonce. Malheureusement, depuis la COP21, des financements existent et puis on se rend compte que les acteurs sur le terrain n'ont pas accès à ce financement-là. Peut-être faut-il que les acteurs reviennent un peu plus à la raison et considèrent que la planète ne pourra être sauvée que si l'humain qui y habite est sauvé. Et donc, peut-être qu'à partir de là, on changera de regard et qu'on arrêtera de courir les conférences uniquement dans la plus belle tenue, avec les meilleurs discours. Nous avons besoin que cet argent arrive à la base. Nous avons besoin de solutions concrètes. Et j'ai l'habitude de dire, je suis un grand provocateur, que je n'ai rien à foutre de la planète tant que je n'ai pas suffisamment à manger, tant que le revenu de mon travail ne me permet pas de vivre et de faire vivre mes enfants. Et c'est dans cette situation que nous sommes, et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut regarder les choses, plutôt que de négociations sur le climat constamment, où chaque chef d'État, une fois qu'il est élu, surtout au niveau des grandes puissances, change la donne et décide de faire autrement. Je n'y vois pas beaucoup de sens, sinon de gaspiller de l'argent aujourd'hui. Et je pense qu'il faut, il faut faire autrement, sinon à la COP27, on aura les mêmes questions, à la COP30, on aura exactement encore les mêmes questions.
Vous, aujourd'hui, vous avez décidé de vous étendre au continent africain et de parler de panafricanisme lié justement à la gestion des déchets. Vous partez aux Comores dans quelques semaines dans le cadre d'un partenariat avec une association. Pouvez-vous nous en dire plus?
Bon, c'est difficile d'en dire un peu plus. Il y a eu un rapprochement d'ailleurs, ou un énième rapprochement avec le Comore. Nous avons eu beaucoup d'échanges. C'est vrai que les modèles que nous développons sur le déchet ou notre approche du déchet intéressent beaucoup sur le continent ou ailleurs. Et dans ce sens, c'est vrai qu'il y a un partenaire qui nous a sollicité et son projet nous a paru concret. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est simplement de partager aussi notre savoir et de voir comment des modèles que nous avons développés, adaptés à nos spécificités africaines, puissent être répliqués en tenant compte toujours des contraintes locales. Nous savons que les Comores sont un territoire insulaire et que par là, de nouveaux défis aussi s'imposent, notamment la logistique ou même le traitement et la collecte d'un certain nombre de déchets. C'est en ce sens aussi que les défis sont intéressants pour nous. Et nous, simplement, nous venons voir quelle peut être notre contribution par les modèles que nous avons développés. En investissant le domaine du déchet, en faisant le choix de venir y travailler, je ne pensais à aucun moment que j'en ferais un projet entrepreneurial en Afrique. Absolument pas. Il y a de cela 15 ans. Mais le premier déclic est venu de ce que j'appelle de la magie. J'ai vu des magiciens sur le centre de tri dans l'est de la France. Les ouvriers, les exploitants qui étaient là sont toujours pour moi aujourd'hui des magiciens. Et je me suis dit, avec un regard d'enfant, comment cela est-il possible? Pourquoi n'avons-nous pas cette possibilité sur le continent africain? Pourquoi nous partons de tant de milliards engrangés chaque année depuis des décennies pour la gestion de nos villes et des déchets? Et alors que nous n'avons pas les effets, que font les partenaires au développement dans leur programme de gestion de déchets qu'ils vendent tant à nos institutions et à nos pouvoirs politiques? Donc, le déclic est d'abord venu de là. Puis, il y a eu un deuxième déclic. Quand nous avons initié Africa Global Recycling, ma volonté n'était pas d'en faire le groupe ou avec une ambition panafricaine aujourd'hui. Elle était simplement un moyen, parce que j'avais une entreprise en France, Elle était simplement pour moi un moyen de dire que je fais quelque chose dans mon pays d'origine pour soutenir mon business. Mais c'est quand j'ai été au creux de la vague, que j'ai tout perdu au Togo, que je me décidais à rentrer en France pour m'occuper de mon entreprise en France, que je me suis dit, attends, le défi pendant 3 ans nous a permis de sortir des gens de la rue. Voilà le bilan que j'en fais. Plus que des containers que nous avons pu charger pour l'Europe. Le déchet nous a permis de rentrer dans des écoles, de changer des mentalités. Il est hors de question que cela puisse changer. Et je veux à mon tour devenir également ces magiciens qui m'ont formé et devenir ces cuisiniers qui m'ont formé. Et c'est comme ça que nous avons décidé à ce moment-là, ou que j'ai décidé à ce moment-là, d'arrêter définitivement mon entreprise en France pour me consacrer exclusivement au développement d'Africa Global Recycling, qui aujourd'hui est une structure qui va au-delà de la question de la collecte et de la valorisation des déchets. Parce que aujourd'hui, nous nous servons du déchet pour créer, pour faire de l'innovation sociale, pour faire de l'innovation économique. C'est là désormais tout le sens de mon combat pour l'Afrique. Et c'est à ça que je crois que le déchet, la magie du déchet est inconnue, est méconnu, inexploré sur le continent africain, à mon grand regret, alors qu'il permet d'avoir cette vue transversale et d'avoir ces actions transversales sur les plans de développement stratégique de nos pays.
Nous arrivons à la fin de cette interview. Les femmes et les enfants sont les personnes citées comme les personnes vulnérables. Vous, comment vous intégrez la femme et les enfants, enfin les femmes et les enfants au sein de votre société et au sein justement de ce pôle d'innovation sociale?
Alors, les enfants, nous pensons que le changement ne peut venir que d'eux, parce que au fond, nous parlons d'eux. C'est pour eux le monde de demain, et c'est en ça que l'initiative Moi je trie a été développée. Moi je trie, je comme le jeu joué, a été développée pour apporter l'éducation environnementale et la sensibilisation aux enjeux du tri sélectif des déchets dans les écoles, pour que l'enfant puisse apporter le changement dans les familles. Et c'est aujourd'hui grâce aux hommes et femmes qui font Moi je trie aujourd'hui. C'est une présence sur la Côte d'Ivoire, sur le Togo, avec plus de 65 000 élèves bénéficiaires de nos programmes aujourd'hui, et une ambition d'1 million d'enfants sensibilisés qui intègrent nos programmes à l'horizon 2025. Ça, c'est concrètement sur le sujet de l'enfant. Mais en même temps, ce ne sont pas que les déchets. Nous leur permettons d'ouvrir leur esprit sur des orientations d'avenir, comme les énergies renouvelables et autres. Donc, en somme, c'est de permettre de sortir de ce confinement intellectuel de la fabrique à diplôme ou de la fabrique à l'école qu'on nous a imposé depuis tant d'années, pour qu'on sache que les métiers de demain doivent également s'inculquer dès le plus bas âge à l'école. Ça, c'est sur la question école. Sur le débat des femmes, je ne suis pas réellement partisan et je ne crois pas que c'est un débat dans la réalité qui nous concerne, ou en tout cas ce pas de débat qui nous concerne. Parce que les femmes, elles ont toujours été ce pilier entrepreneurial forte et résiliente de l'Afrique. De l'Afrique dans toute sa dimension. Je prends le continent et je prends les îles qui vont avec. C'est la femme, bien souvent, même si elle est réduite au silence, qui, dans nos cultures, porte souvent les ménages et porte la résilience quand l'homme ne peut plus rien faire ou n'a même plus la capacité de faire quoi que ce soit. Donc, je crois que nous nous trompons de débat en nous lançant tête baissée sur des sujets d'intégration de la femme, etc. C'est vrai que des débats existent. C'est vrai qu'elles sont vulnérables. Mais je pense qu'elles font partie entière de la société et il nous revient simplement de leur donner leur place. C'est simplement leur place que nous avons usurpée, que la société a usurpée. C'est de ça qu'il s'agit. De voir ça comme une innovation nouvelle où désormais il faudrait trouver le moyen de faire intervenir la femme parce qu'elle a toujours été là.
Et comment vous travaillez avec les femmes concrètement?
Nous travaillons avec les femmes comme nous travaillons avec les hommes, tout simplement, pour être dans ma logique. Aujourd'hui, pas besoin d'afficher sur un panneau publicitaire, mais 90% de mon staff de décision est féminin. Et souvent, je me retrouve, nous sommes deux hommes et nous avons plein de femmes autour de nous. Et je n'y vois aucun inconvénient. Je n'y vois rien d'anormal. Nous avons des femmes à des postes de responsabilité, vous l'avez compris, à des postes de décision stratégique de l'entreprise. Et ça nous va très bien. Nous ne disons pas, ah tiens, c'est une femme qui a pris cette décision ou c'est une femme qui mène cette action. D'ailleurs, notre usine, la patronne, enfin, le responsable de notre usine, de l'activité industrielle, est une femme. Et dans les groupements que nous développons, c'est aussi des femmes qui y travaillent sur le secteur informel. Et nous ne faisons pas de distinguo. Par contre, nous nous rendons compte qu'elles sont bien plus entrepreneuses, qu'elles sont bien plus résilientes, qu'elles sont bien plus, je dirais, comment dirais-je, plus fortes, si on veut dire, plus endurantes, voilà, dans l'épreuve entrepreneuriale.
Je vois. Eden Dalmeida, quels sont vos projets, hormis les Comores, en Afrique?
Aujourd'hui, je dirais que c'est le ciel, la limite. Mais je le dis de façon très modeste parce que malheureusement, encore aujourd'hui, nous n'avons pas tous les moyens de nos ambitions. Nous regardons toutes les opportunités. Nous essayons de voir. Il y a d'abord l'Afrique de l'Ouest, elle est vaste avec des économies dynamiques comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Sénégal qui nous intéressent. Nous parlons avec un certain nombre de partenaires. Nous avons des échanges, vous l'avez dit, avec les Comores. Mais nous avons aussi des échanges avec des pays de l'Afrique de l'Est. Nous avons des échanges avec des Européens qui veulent investir ou qui veulent se servir de champions locaux comme relais de croissance. Donc, nous regardons tout ça et nous essayons de voir qu'est-ce qui serait le plus bénéfique et qu'est-ce qui nous correspondrait le plus à notre développement.
Quel message pour la jeunesse?
La jeunesse, elle est à la fois, une partie de la jeunesse en tout cas, elle est forte, entreprenante, et j'ai la chance de sillonner l'Afrique, d'en rencontrer beaucoup. Elle est créative, mais elle doit aussi savoir que entreprendre n'est pas une histoire d'un jour, c'est une histoire de vie, et que c'est un livre qu'il faut raconter, c'est un livre qu'il faut écrire. Et qu'on ne devient pas entrepreneur parce qu'on a envie de sortir de la galère. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on va devenir riche du jour au lendemain. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord l'histoire, c'est d'abord la possibilité de réaliser ou le fait de se condamner à réaliser quelque chose de plus grand que son rêve qui fait l'entrepreneur. Et je veux aussi dire que souvent, nous nous cachons ou la jeunesse se cache, ou une partie de la jeunesse se cassent devant des pseudo-problèmes de financement d'entreprises ou de leurs projets. Les financements ne sont pas devant les ministères où beaucoup de jeunes vont faire la queue. Les financements ne sont pas uniquement dans les banques. Les financements sont aussi chez vos clients, sont aussi chez vos fournisseurs, sont dans la recherche de nouveaux partenariats. Il faut faire preuve de créativité. Et puis, il y a une jeunesse qui est paresseuse, qui a démissionné, qui n'attend que ça tombe tout cru. Celle-là, elle m'inquiète énormément. Elle pense que tout est facile parce qu'on passe son temps devant les novellas, etc., qui, malheureusement, nous trompent. Et si vous n'avez pas d'argent pour aller travailler, ben vous vous levez, vous marchez plus tôt. Je vais résumer à ça. Donc, trouvez le moyen de se surpasser parce que, quoi qu'il en soit, c'est à eux que revient l'Afrique. C'est à eux et à eux seuls que revient l'Afrique, d'aujourd'hui et de demain.
C'était Radio Era Environnement avec Eden de Almeida. Merci d'avoir accepté cette interview.
Merci, c'est tout un honneur pour moi.
Radio Era Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement.